Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec mon invité d'aujourd'hui, c'est un parcours de vie qui nous ramène à la Fetra qu'on discute avec lui. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, version homme.
Yasser Atarhouch, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Sidi Yasser? Tout va bien?
Ça va très bien, Femme de Lille.
Alors,
ça va très très bien, je vous remercie.
Beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur dans votre voix. Est-ce que ça vous joue des tours parfois?
Oui, bien sûr, ça joue beaucoup de tours parce que les gens, avec les humains, ça joue des tours parce que les personnes se trompent. Mm. Les gens ont tendance, faut pas généraliser, mais à mal interpréter la douceur, la gentillesse, le fait de ne pas crier, le fait de pas s'énerver, c'est mal interprété. Mm. J'étais à la banque pour retirer un chèque de banque. Juste avant-hier, ça s'est un peu mal passé. Et je demande à la banquière de ne pas crier. Et je lui dis, moi, je ne crie pas. Elle me dit, vous ne criez pas parce que vous n'avez pas la capacité de crier. Mais si vous saviez crier, vous auriez crié. Je lui dis, mais non, madame, pas du tout. Et voilà. Et donc, ça jance ce jour de tour. Ouais, ouais, mais au final, on est gagnant.
Oui.
On est gagnant sur plusieurs plans. Que ce soit physique, psychologique, spirituel, énergétique, sur le plan social, on est toujours gagnant. Mm. Toujours, je veux dire, la première médecine, la première des médecines, c'est la douceur. On appelle la première médecine, c'est l'hanan. Et tout médecin, autant qu'il est, s'il n'est pas doux, d'accord, il pourra jamais soigner et traiter les personnes. Mm. Et moi, c'est ma mission de vie. Donc, je suis obligé. Et je dois me contraindre à tout faire de manière douce. Mmh. Voilà. Sinon, on peut pas soigner, on ne peut pas venir en aide à son proche.
Alors, pour ceux qui pensent que c'est le fait de s'imposer par, entre guillemets, une forme de violence qui marche, est-ce que c'est primitif comme approche? Dans le sens primaire du terme, c'est-à-dire primitif dans le sens animal, voilà.
On peut aller même plus loin. On s'éloigne de son humanité, en fait. Mm. Tout, c'est plus grave que ça. On devient moins humain. Et au final, in fine, comme vous dites, on se rapproche de l'animal. Mais j'aime pas trop ça parce que l'animal, il est quand même vachement doux.
Oui.
Il est quand même
de
vachement
gentil. De l'instinct animal.
Vraiment, on s'éloigne de son humanité.
Exactement.
On est moins homme, on est moins humain. Voilà.
Ouais.
On est plus sauvage, on est plus.
C'est ça. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, Yasser? Est-ce que Yasser, l'enfant, était aussi comme ça, dans ce calme, à ne pas parler fort, à comprendre que, in fine, il sera gagnant, il va être gagnant, ou bien, pour revenir encore à la première question, est-ce que ça vous joue des tours? Est-ce que c'était compliqué avant de prendre conscience de cet aspect de l'humanité, de son importance?
Le but de l'opération, donc le fait d'être dans cette présence-là, c'était de revenir enfant. C'est ce qu'on appelle la fitra. Et c'est de retrouver son être premier, qui on était vraiment avant d'avoir reçu de la couleur rouge, de la couleur noire, avant d'avoir perdu un doigt, vous voyez, dans la belle bataille de la vie.
Oui, oui.
Donc concrètement, oui, on essaye de revenir enfant. Moi, je connais peu d'enfants turbulents pour rien. Non, c'est pas possible. Tout enfant elle n'a pas vocation à être turbulent, mordre, voleur, chapardeur. Non, non, non. Mm. L'enfant, il est comme on l'a construit. Et donc, le but, c'est de se déconstruire, d'enlever les couches qu'on nous a rajoutées, donc les programmes inconscients qu'on nous a installés, tout ce qu'on a voulu faire de nous, okay, pour redevenir nous-mêmes. Une fois que vous redevenez vous-même, eh ben, vous redevenez un, vous êtes dans votre unicité. Et regardez, je prends toujours cet exemple pour mes patients. Vous êtes vous êtes victime d'une tempête sur un bateau. C'est pas drôle, une tempête. On a déjà vu des films avec des tempêtes, c'est vraiment dur. Mais est-ce que le poisson, à 100 mètres ou 200 mètres sous la mer, est-ce qu'il est victime de cette tempête? Non.
Je sais pas, j'ai jamais vu les profondeurs. Le film montre ce qui se passe au-dessus de la mer et pas dans les bas-fonds. Donc je peux pas répondre.
C'est un calme absolu. C'est un calme de sérénité absolue. Et donc le truc, c'est de toujours garder cette tranquillité des bas-fonds, des fonds des mers, malgré qu'il y ait une tempête à la surface. Donc voilà, et en fait, garder son calme, être doux, sourire, ça demande beaucoup d'énergie.
Absolument, absolument, oui.
Ça demande de la force. Oui. Ça me demande de la force. Ça me demande de la présence. Ça me demande de la concentration. Ça me demande des exercices au quotidien. Oui. C'est pas inné. Moi, je veux tirer la tête, je veux dire non, je veux. Oui. Mais ça, c'est facile. Il suffit de lâcher les vannes et.
C'est
et
vrai.
Non, et nous, on a des exercices quotidiens à lutter contre notre ego tyrannique, contre notre langue qui veut toujours mordre, qui veut toujours critiquer, qui veut toujours le défaut. Alors oui, c'est un chouette jeu.
Alors vous êtes aujourd'hui ostéopathe holistique et kiné. Est-ce que c'est votre métier qui vous a guéri, justement, qui vous ramène vers cette fétera?
Franchement, c'est quand j'ai vraiment commencé à étudier les sciences ésotériques en islam, quand j'ai commencé tout ce qui est médecine prophétique et que j'ai vraiment commencé à travailler dans la médecine traditionnelle. Donc voilà. Donc moi, j'ai un master en kinésithérapie. Après, je me suis formé en ostéopathie douce, en ostéopathie ostéo-articulaire en France. Et quand j'ai compris qu'il y avait des niveaux subtils, d'accord, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une autre médecine, d'accord. C'est vraiment qu'il y avait une autre médecine et ça a permis de travailler sur moi, de me soigner moi-même.
Oui.
Parce que moi, petit, j'étais impulsif, c'était difficile. Heureusement que j'ai une maman qui m'a aidé, protégé. Et puis j'étais poète. Depuis tout petit, j'adorais la philosophie, la poésie, donc j'étais très mystique déjà, très petit. Ça a continué. Après, on a affiné ça. Et puis, une fois qu'on comprend qu'on a ce côté féminin, qui n'a rien de féminin, mais que l'énergie féminine, c'est une énergie de guérison, d'accord ?
Oui.
Et ben, à partir de là, on peut commencer. C'est parce que être calme, doux, en étant juste dans la testostérone, c'est pas possible.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que soit on va à la guerre et on est fait pour faire la guerre, soit on n'est pas dans un temps de guerre et on n'a pas besoin de développer des capacités de guerrier, de compétition. Voilà. Et la chance que j'ai eue, moi, c'est que je suis né en Belgique, j'ai eu une éducation à l'école laïque et j'ai eu une éducation traditionnelle islamique à la maison, moderne, mais traditionnelle quand même. J'ai pu comprendre que la douceur, que la gentillesse, que l'humanité, que le service, eh bien ça aide. Et j'ai toujours fait le choix du calme par rapport à la violence. Et j'ai toujours lutté contre la violence. Moi, j'ai aujourd'hui 38 ans. Je pense que je ne me suis jamais bagarré de ma vie. J'ai jamais fait une bagarre. Je ne sais pas ce que c'est une bagarre dans une cour de récréation.
Même enfant, ado.
Un petit peu enfant, oui, en ce moment. Je pense que j'ai plus, je me suis plus battu avec mes sœurs que.
Oui.
Avec des batailles de griffes, qu'avec l'extérieur. Donc c'est un choix aussi. C'est pas qu'est-ce que vous avez fait. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas fait.
C'est exact.
Comment vous avez éduqué votre main, comment vous avez éduqué votre langue, comment vous avez éduqué vos yeux, par le respect. Moi, j'ai eu un environnement très féminin. Mon père a six sœurs. J'ai deux sœurs. J'ai beaucoup plus de cousines que de cousins. Donc, voilà. Donc, si vous ne choisissez pas ce guerrier, il y a une étude américaine qui était sortie il n'y a pas longtemps en disant que pourquoi il y a de la violence dans le monde. C'est que certaines femmes, quand elles choisissent un homme, elles vont plutôt choisir un homme guerrier plutôt qu'un homme doux. L'homme doux, il est moins choisi dans le...
Ouais, il dérange un peu.
Ouais, il dérange. Et donc, elle va se reproduire... Bon, c'est un peu vulgaire ce que je dis. Elle va se reproduire avec un homme plus guerrier, fort. Et du coup, ça va faire des gamins plus guerriers, plus forts. Et le garçon tranquille, on va, comme vous avez dit, ça va jouer des tours contre lui. On va supposer des choses, on va le catégoriser, alors que ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas tout, hein. Heureusement.
Vous avez une femme dans votre vie, justement ?
Oui. Moi, j'ai eu la chance. J'avais la chance. J'ai une petite fille de 10 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être mariée. Après, je me suis séparée de la maman, de la petite. Et voilà.
Mais pas dans la violence, j'imagine. Dans la douceur.
Pardon ?
Mais pas dans la violence, dans la douceur. C'est-à-dire, le conflit n'était pas violent. Il ne peut pas être violent avec vous aussi ?
Non. La violence, c'est quoi la violence ? La violence, on peut se mettre en colère. Oui. Moi, je me mets en colère. Oui. Il y a des bonnes colères. La colère, c'est pas négatif.
Bien sûr.
Mais la violence, c'est quoi ? C'est taper pour faire mal. Alors, je dis pas qu'il faut taper pour faire du bien, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez donner une parole dure à quelqu'un qui est pas faite pour lui faire du mal. Elle est faite pour le guérir. Et lui, il va croire que vous l'avez fait mal, vous l'avez entaillé. Mais après, on voit que c'est une bonne parole. C'est toujours une question d'intention. Donc, on peut se mettre en colère, on peut taper du poing sur la table, mais on ne terrorise pas les gens, on ne fait pas pleurer les gens, on n'accable pas les gens, on n'appuie pas sur des poings qui sont... On fait ça avec intelligence. Parfois, c'est important de monter le ton. Parce que l'autre, devant, il n'a pas les mêmes références que vous. Donc, vous montez le ton avec bienveillance. Et proportionnellement, quoi.
Dans le contrôle.
Justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est essentiel. À partir du moment où vous perdez le contrôle de votre colère, vous n'êtes plus humain. Vous n'êtes pas un méta-humain. Vous n'êtes pas un super-humain.
Exact.
Vous êtes un sous-humain. Quand je me mets en colère contre ma fille, je lui dis, voilà, Ambre, je te crie dessus, je suis très fâchée. Mais à l'intérieur, papa, il peut se calmer en une fraction de seconde. Si je me mets en colère et que je ne vois pas qu'à l'intérieur, c'est froid, c'est frais, c'est que j'ai perdu le contrôle et là, il faut...
Mais on le sent quand on est sur le point de perdre le contrôle. On le sent. Le contrôle, il ne se perd pas de façon... il ne se perd pas sans contrôle, j'ai envie de dire. Mais on sent
si on est éduqué à ça.
Ouais.
Si vous ne savez pas qu'un caillou dans la chaussure, ça fait mal et que vous êtes né avec, vous allez vivre toute votre vie avec un caillou dans la chaussure en boitant. Ça ne va vous poser aucun problème. Si personne ne vous a appris c'est quoi la colère, c'est quoi la tristesse, qui vous a fait un cours sur les émotions, que c'est normal, qu'on doit les travailler, qu'il faut laisser sortir, qu'une colère, elle peut être saine, une colère, elle peut être divine. On dit que Dieu, il peut se mettre en colère. Donc, c'est que la colère, elle n'est pas... Elle n'est pas bien. Elle peut être difficile, la colère. Elle peut être bonne.
Je comprends. Alors, on se dit quand on entend une personne comme vous, avec votre capacité de connaissance des émotions, de soi, on pense qu'une personne comme vous ne se sépare pas de son conjoint, ne fait pas, entre guillemets, ce qui peut être considéré par d'autres comme un mauvais choix. C'est une personne qui a toutes les ressources en main pour vivre... une vie vraiment comme un long fleuve tranquille.
Oui, mais si le fleuve il est tranquille, c'est bien de rester dessus. Mais le divorce, c'est une miséricorde, le divorce. C'est une chance. Il n'y a rien de négatif dans un divorce.
Absolument. Non, vous avez raison, il n'y a rien de négatif. Mais c'est ce qui amène au divorce. C'est la période compliquée qui amène au divorce. Après, quand le divorce est prononcé...
Spécialement.
Non.
Bon, imagine, je ne veux plus. Voilà, je suis mariée avec toi, on vit heureux, et je ne veux plus. Je ne veux plus.
Ouais.
Je veux plus être mariée. Tout va bien, tu es gentil, je t'aime, on a des beaux enfants, mais je veux ma bridge. Qu'est-ce que vous dites contre ça ? Ah non, tu dois me donner une raison. Je ne veux plus. Je veux partir. Est-ce que je dois trouver une excuse pour me disputer avec toi ? Est-ce que je dois devenir désagréable ? Est-ce que je dois foutre en... Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais c'est compliqué pour l'autre. C'est très compliqué pour l'autre. Je veux plus, tout va bien, on est heureux, etc. Mais je veux plus. C'est presque capricieux.
L'autre. Parce que l'autre, non, pas du tout. C'est l'autre, s'il est vraiment amoureux de la personne, il libère la personne. Il la libère, elle veut plus. Ah, bah, je suis content que tu l'exprimes, va-t'en. Mais l'autre, le problème, c'est que l'autre, il n'est pas... Il est touché dans son ego.
Bien sûr.
Il est touché dans son ego. Il est touché dans ses projets de vie. Il est touché dans ses plans à long terme. Il est touché parce que vous partez. Alors, en général, si vous lui donnez une pièce de rechange, il va vous dire OK, au revoir.
OK.
Donne-moi quelqu'un qui va continuer à payer le loyer, quelqu'un qui va continuer à chercher les enfants, quelqu'un qui va continuer à m'aider. Vous voyez?
Ouais.
Mais il faut voir, chaque cas est unique.
C'est vrai.
Mais pour moi, le divorce... Vous savez, j'ai divorcé de mon épouse, la petite avait 1 an.
D'accord.
Et je suis rentré au Maroc. J'étais en France, donc j'étais à Marseille. Et je suis rentré au Maroc que 8 ans après. Alors que ça fait 15 ans que j'essaie de rentrer au Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai fait le petit avec mon ex-femme. Et c'était hors de question que je la laisse toute seule. Elle a fait un enfant avec moi. Même si je ne suis plus là dans la maison, je suis là au quotidien. Je parlais avec un papa qui a aussi divorcé quand il était petit, le pépé, et il m'a dit « J'ai déjeuné avec mon fils tous les jours, jusqu'à ses 18 ans. » Donc, après, il y a l'exemple des papas militaires, des papas qui sont loin. Donc, vous divorcez d'un couple, vous ne divorcez pas de l'enfant, vous ne divorcez pas de la relation, vous ne divorcez pas de votre amitié.
Mais ça, c'est culturel aussi. C'est peut-être le fait d'avoir vécu dans un autre pays, parce que dans notre région à nous, en général, les divorces ne se passent pas avec ce même état d'esprit. Et souvent, on voit beaucoup de mamans justement le revendiquer, notamment à travers les réseaux sociaux, le fait de prendre en charge entièrement l'enfant et devoir encore dépendre de leur ex-mari pour n'importe quelle autorisation, pour signer un papier, pour pouvoir faire une demande de changement d'établissement scolaire, une demande de passeport, de visa, etc. Malgré
ça,
l'absence...
C'est partout, c'est même en France. Même partout.
D'accord.
Si, par exemple, je vis en France, à Marseille, et que mon ex-femme veut partir avec la petite à Paris, elle ne peut pas faire un changement de domicile. S'il n'y a pas d'autorisation du papa.
S'il n'y a pas d'autorisation du papa. Elle a le droit de la faire voyager dans un autre pays pour des vacances?
Oui, elle a le droit de la faire voyager dans un autre pays. Avant, je pense qu'il y avait un papier à faire pour, vous savez, les petits qui partaient en Algérie ou au Maroc et qui ne revenaient pas. Mais aujourd'hui, il y a des contrats entre les pays. Et c'est assez protégé.
Donc, ne pas réussir son couple ne veut pas dire ne pas réussir son couple parental.
Ouais, exactement, c'est ce que je dis aussi à mon ex-femme. Je dis on reste un couple, reste un couple parental.
Parental, exactement.
Et puis de toute façon, on ne voit vraiment ce que j'ai découvert, c'est que on ne peut jamais connaître une personne avant de s'être disputé avec elle et avant d'avoir géré un conflit. On peut rester marié 20 ans, tout va bien, et le jour où il y a un problème, on voit le visage de la personne. Donc, voilà. Après, c'est chacun qui doit vivre ce moment-là aussi. Hein. On ne peut pas enlever ces mauvais moments dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas enlever ces maladies, on ne peut pas enlever ces fièvres, ces moments un peu dépressifs. C'est ce qui fait un peu la beauté du futur, et c'est ce qui fait que ça nous permet de comprendre ce monde. Je dis souvent à mes patients, on ne prend le bienfait de l'eau chaude que le jour où le bota a trop. Tant qu'un jour on n'a pas eu une panne d'eau froide, on va jamais dire « Ah, aujourd'hui j'ai de la chance, ah, aujourd'hui j'ai de la chance, ah, aujourd'hui j'ai de la chance. » Donc, le secret, vraiment le secret, si vous voulez que j'ai compris, c'est de ne jamais, jamais, jamais... avoir un mauvais comportement avec qui que ce soit. Toujours garder le bon comportement.
Oui.
Si vous gardez le bon comportement, vous allez toujours réussir. Même si vous êtes... Même si par la violence, par l'humiliation, par la colère, par la fourberie, vous pouvez vous en sortir, à long terme, ça ne marche pas.
Oui.
Vous gardez un bon comportement. On appelle ça la noblesse du comportement. Oui. Vous gardez un bon comportement. Toujours, toujours. Et ben, vous n'allez pas vous pourrir. vous n'allez pas tomber malade intérieurement, vous n'allez pas développer des maladies psychosomatologiques, parce que le divorce, il va passer, il a fait toutes ses bêtises, il a enlevé les... Moi-même, j'ai eu ça dans ma famille, ça a divorcé, il est parti avec la voiture, les cartes de crédit, et il attend que la femme revienne en rampant. C'est ce qu'ils font, je le sais, vous savez, dans mes patients, j'ai 85% de femmes dans ma patientèle, depuis 12 ans. Et moi-même, maman a vécu un divorce aussi après 27 ans de mariage. Donc, on a cet homme, d'accord, ce pervers, qui va essayer d'asphyxier le poisson pour qu'il supplie d'avoir un peu d'air.
Ouais.
Mais ça, on ne peut rien faire contre des gens malades.
Bien sûr. Pour vous, justement, c'est pathologique.
Bah oui, c'est criminel.
Mais oui.
C'est un crime. Ouais. Mais c'est même condamné par la loi.
Ouais.
Il ne paye pas sa pension, il ne va pas chercher les enfants. C'est condamné, pénal.
Ouais,
et ça me gagne à la fin. Mais entre-temps, il y a eu des dégâts.
Beaucoup. Votre message, c'est quoi exactement par rapport à ça, par rapport à la vie à deux?
La vie à deux, c'est que dès qu'il n'y a plus de respect, on s'en va. On est des êtres humains, on est des êtres nobles. Le respect et le bon comportement.
En tout cas, merci.
Et la pureté du cœur.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet entretien. Yasser Atarhouch, merci infiniment d'avoir joué le jeu.
Avec plaisir.
D'être la version homme de femme d'aujourd'hui, aujourd'hui justement.
Avec plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.